Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Nous nous attendons à ce que les protestations se poursuivent, mais que cela se fasse dans le calme.
Événement sur Europe 1, le chef de la police de Houston aux États-Unis, c'est lui qui va coordonner les funérailles de George Floyd. Vous entendrez son témoignage dans un instant.
Alors que hier déjà une cérémonie à la mémoire de cet homme mort asphyxié lors d'un contrôle de police a eu lieu à Minneapolis. Reportage à suivre, même si ce ne sont pas des obsèques nationales, elles en prennent la forme et la tournure dans une Amérique divisée et en colère.
Une image ce vendredi, la réouverture du plus grand château de la Loire, Chambord, à nouveau visité par des hordes de touristes.
Malgré le temps, on retrouve la joie du tourisme.
C'est un château de la Renaissance et du coup c'est une renaissance aussi pour le château, pour nous aussi. De savoir que derrière on va revivre une histoire comme avant.
Reportage à suivre et nous serons en ligne avec Jean Dossonville, le patron de Chambord, tout à l'heure à 12h50.
L'actualité, ce sont aussi les questions que vous vous posez sur votre travail suite à cette période de confinement.
Jusqu'à quand peut durer le chômage partiel? Le télétravail sera-t-il maintenu au moins en partie? Et puis, quels sont mes droits? Sachant que certains salariés subissent déjà la pression d'employeurs qui n'hésitent pas à leur demander des sacrifices et les menaces de licenciement.
Il y a bien eu des pressions qui ont été faites, on les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signent un avenant qui prévoyait, pendant une période déterminée, une réduction de leur salaire.
Dans ce journal également, pas d'assouplissement dans les EHPAD à deux jours de la fête des mères. Le rapporteur du texte sur l'isolement des personnes âgées, Jérôme Guedj, sera avec nous. Ceux qui n'ont pas annulé leur mariage ont le sourire. Les célébrations reprennent à bloc. Nous irons à Toulouse. Et puis c'est le thème de votre émission, Elisabeth. Mais nous en parlerons aussi à la fin de ce journal. Comment sauver les clubs de foot? Gros plan sur les clubs amateurs. La météo, Céline, encore une journée pluvieuse.
Ah oui, beaucoup de nuages. En des averses ponctuelles, c'est le programme sur l'ensemble du pays, ou presque. Il reste encore un petit peu de soleil sur le pourtour méditerranéen et la pointe nord, ça en toute fin de journée seulement.
Merci Céline Dacosta. Météo complète juste avant 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette fin de semaine aux États-Unis est marquée par les funérailles de George Floyd.
Mort lundi de la semaine dernière, asphyxié par le genou d'un policier qui l'a maintenu ainsi pendant 8 minutes et 46 secondes. Policier blanc qui désormais risque 40 ans de prison. Une affaire qui a déterré un contentieux toujours pas réglé dans une Amérique à nouveau en colère. De Rosa Parks à Martin Luther King, George Floyd est devenu la nouvelle icône de la lutte contre le racisme. Son cercueil traverse le pays maintenant. De Minneapolis, où a lieu une cérémonie, jusqu'à Houston, au Texas, où il sera enterré. Xavier Yvon.
Le dernier voyage de George Floyd prend des allures de funérailles nationales. Première étape hier à Minneapolis. Devant le cercueil doré, le maire, blanc, de la ville, s'agenouille et fond en larmes. Puis le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, élève George Floyd au rang de symbole universel.
George Floyd, l'histoire de George Floyd, c'est l'histoire des Noirs. Ça fait 401 ans que vous avez votre genou sur notre cou. Ce qui est arrivé à Floyd arrive tous les jours dans ce pays. Dans l'éducation, dans la santé, dans tous les domaines de la vie en Amérique. Il est temps pour nous de se lever et de dire « virez vos genoux de nos coups ».
La dépouille de George Floyd va désormais prendre la direction de la Caroline du Nord, où il est né. Dans ce sud encore imprégné de son passé esclavagiste, cérémonie prévue demain. Enfin, le cercueil doré arrivera à sa destination finale, Houston, la grande ville du Texas, où vit la famille de George Floyd. Hommage public lundi, obsèques privées mardi, avec la présence annoncée de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama et candidat à la Maison-Blanche. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Événement ce matin sur Europe 1, le chef de la police de Houston au Texas, Art Acevedo, expliquait comment il allait organiser ses obsèques.
Oui, et nous vous proposions en cette mi-journée de le réentendre. C'était un événement poignant ce matin sur Europe 1, d'autant que Art Acevedo est lui-même issu de l'immigration et qu'il est arrivé petit avec ses parents dans cet Eldorado américain. Écoutez-le bien, la traduction est signée Nicolas Teneff et Mathieu Béliard ce matin lui demandait ce qu'il attendait pour ce week-end.
Eh bien, nous nous attendons à ce que les protestations se poursuivent, mais que cela se fasse dans le calme. La ville de Houston est la plus diversifiée de tous les États-Unis, la grosse ville avec la population la plus variée ethniquement. Et jusqu'à présent, les communautés sont dans un état d'esprit formidable, comme cela a pu être le cas dans d'autres situations à problème. Il peut y avoir des désaccords, des colères, mais la chose que nous partageons universellement, c'est que nous aimons cette ville. Houston est forte et nous faisons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des uns et des autres.
one another safe.
Des jours de manifestations, de violence partout aux États-Unis. Le discours de fermeté de Donald Trump. Si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez votre bouche. C'est ce que vous avez dit au président. Il est temps d'agir en président, avez-vous ajouté aussi. Est-ce qu'il manque à sa mission présidentielle ?
Eh bien, vous savez, je pense qu'il donne une évaluation individuelle à chaque personne qu'il a sous ses ordres. Mais ce dont on a besoin maintenant, ce sont deux mots qui comptent. Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies, qui favorise la confiance, qui favorise la responsabilité et qui automatiquement amène à la paix et à la réconciliation. Il faut aller de l'avant et nous espérons que le président sera dans un discours plus constructif avec le peuple américain. Et donc les individus qui ne veulent pas faire avancer le débat dans le bon sens, je pense que c'est mieux qu'ils ne disent rien du tout. Parce que jeter de l'huile sur le feu, ça ne sert à rien. Et la seule chose qui pourrait, comment dire, ce qui pourrait justement éteindre les flammes de la haine et de la colère, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Alors j'espère, alors qu'on s'approche des funérailles la semaine prochaine, qu'on pourra s'aimer les uns les autres et en fin de compte arriver à des lois et à une politique qui mettent à l'écart les officiers qui violent le serment de confiance. Parce qu'ils ne sont plus des policiers. Et parce que ceux qui font bien leur travail méritent que l'on fasse tout notre possible pour écarter tous ceux qui violent le code d'honneur de la police américaine.
Mais c'est quoi le problème aux États-Unis ? Est-ce que la police américaine est raciste ? Est-ce qu'on trouve des policiers racistes ? À vos yeux, qu'est-ce qui a conduit à la mort de George Floyd ?
Vous savez, ce qui a amené la mort de George Floyd, c'est un officier de police qui a utilisé une certaine technique. Qu'elle soit autorisée ou pas, je ne vais pas le commenter. Mais je peux vous dire qu'on ne laisse pas nos hommes utiliser des prises de karaté à moins de combattre pour leur vie. Là, le gardien de la paix a maintenu sa prise alors que la situation avait l'air d'être sous contrôle. Et alors que George a commencé à supplier pour sa vie, qu'il a même demandé sa maman, il a choisi tout simplement de continuer à lui maintenir le cou, de garder le genou sur son cou. Il a choisi de maintenir le genou sur son cou et c'est ce qui a causé la mort de George Floyd. Et trois autres officiers de police avaient le devoir d'intervenir et ils ne l'ont pas fait. Et ça me désole beaucoup, comme presque tous les officiers de ce pays. Y a-t-il des policiers racistes ? Oui. Mais je peux vous dire, après 30 ans de métier, que c'est l'exception et pas la règle.
On vous a vu dans votre uniforme, un genou à terre, avec les manifestants. Vous êtes un immigré cubain, vous êtes arrivé enfant. Que ressentez-vous quand on accuse votre corps, la police ? De racisme, vous personnellement, immigré cubain et policier, ça vous touche ?
Je peux vous dire que la très grande majorité des officiers de police sont en colère. Ils se sentent blessés et salis lorsqu'ils voient cette vidéo. J'ai parlé avec mes hommes, ils sont tous en colère. Car ils savent que lorsqu'un événement pareil arrive, ça nous impacte tous en tant que policiers. Mais je vous dis une chose, ce pays, aussi imparfait soit-il, est le seul au monde où un petit garçon venant de Cuba, avec son père et sa mère, et ses frères et ses sœurs, avec rien d'autre que 5 dollars que le gouvernement communiste nous a laissés, eh bien c'est le seul pays où ce petit garçon peut grandir et devenir le chef de la police de la troisième plus grande ville du pays. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'un fils d'Africain et de musulman comme Barack Obama puisse grandir et devenir président du pays. On n'est pas parfait comme pays, mais il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être.
Le chef de la police de Houston au Texas, Arta Acevedo, invité exceptionnel de Mathieu Belliard ce matin sur Europe 1. Vous retrouvez ce document en entier qui dure une dizaine de minutes sur notre site europe1.fr. Et puis notez qu'à Paris, la préfecture de police vient d'interdire deux rassemblements prévus demain. L'un à la demande de la famille d'Adama Traoré devant l'ambassade américaine, place de la Concorde.
Il est midi 9.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Le professeur Delfrécy du Conseil scientifique dit ce matin que l'épidémie du Covid est contrôlée. Oui, mais ça veut dire quoi exactement ?
Europe 1.
Il est midi 12, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
Ce matin, le patron du conseil scientifique Jean-François Delfraissy disait que l'épidémie du Covid-19 était contrôlée.
Ben oui, on est tous restés sur cette phrase. Mmh. Ève Roger, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors ça ne veut pas dire que le virus a disparu, non, il circule encore, mais à petite vitesse. Début mars par exemple, on comptait autour de 80 000 nouvelles contaminations par jour. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 1000, donc on a un virus qui circule lentement. Mais on a aussi un système de dépistage des cas positifs qui est devenu très performant. On les repère tout de suite, on les isole et surtout, on remonte les chaînes de transmission beaucoup mieux et beaucoup plus vite qu'en mars en identifiant les fameux cas contacts. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'épidémie aujourd'hui est contrôlée.
Mais il y a des scénarios plus pessimistes. Hein.
Et oui, l'avis du conseil scientifique rendu public hier en examine 4. Le premier dont je viens de vous parler, tout va bien. Mais il y en a d'autres où le virus et sa propagation sont moins bien maîtrisés, en particulier le scénario 4, le plus noir, où le pays se retrouverait comme au début du mois de mars avec une épidémie devenue incontrôlable. Alors dans cette hypothèse se repose la question du reconfinement généralisé pour éviter un rebond de mortalité. Mais le conseil scientifique se montre très réticent à cette idée pour des raisons économiques, sociales mais aussi humaines. Donc il faut absolument éviter ce reconfinement, dit-il, et c'est possible en rendant par exemple obligatoire le port du masque, des conditions plus strictes dans les transports en commun, plus de télétravail et en protégeant spécifiquement les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les précaires, mais aussi les habitants des très grandes villes, dont l'Île-de-France.
Merci Ève Roger. Sachez que le professeur Jean-François Delfraissy sera l'invité de Nathalie Lévy sur Europe 1 ce soir à 18h20.
Pendant ce temps, comme pour les soignants, le gouvernement va étendre sa prime au personnel des secteurs sociaux et médico-sociaux.
Oui, ça va concerner concrètement tous ceux qui travaillent dans des EHPAD, notamment les précisions de Jean-Rémy Baudeau.
Plusieurs semaines de discussions ont été nécessaires avec les départements. Ce sont eux qui décideront de verser ou pas ces primes. Mais le gouvernement ouvre la voie à une reconnaissance pour l'ensemble du secteur médico-social qui a fait face à la crise du coronavirus. Tous les établissements pour personnes âgées, le monde du handicap, l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement d'urgence ou encore les services pour migrants et réfugiés, tous auront droit en théorie à cette prime. Une circulaire que nous avons pu consulter et qui sera publiée prochainement en dessine les contours entre 1 000 et 1 500 euros, y compris pour les personnels en télétravail. Un geste qui était très attendu par ces professionnels restés en soutien des populations les plus fragiles, même pendant le confinement.
Jean-Rémy Baudeau, et alors que l'État vole au secours du personnel médical, Elisabeth, certains hurluberlus en profitent pour se faire un petit pactole perso.
Oui, à l'instar de cet employé du centre hospitalier Albert Calmette à Lille, 35 ans de service, il est soupçonné d'avoir dérobé du matériel médical durant toute sa carrière. Salomé Legrand, il a été mis en examen pour détournement de fonds publics, blanchiment et travail dissimulé.
Oui, c'est la direction de l'hôpital qui voyait régulièrement en vente sur Le Bon Coin du matériel médical issu de son établissement qui a donné l'alerte. Les enquêteurs de la Sûreté départementale de Lille ont ensuite rapidement remonté la piste de ce technicien de maintenance âgé d'une soixantaine d'années et découvert un système de détournement de fournitures. Lors de la perquisition chez ce suspect, les policiers sont tombés sur toute une gamme d'instruments médicaux, mais aussi sur du papier toilette en grande quantité, des douchettes, du linge de lit et même des fauteuils roulants, de quoi remplir 4 fourgons. L'homme, inconnu des services de police, a reconnu avoir commencé ses vols dès son embauche, c'est-à-dire il y a 35 ans. Du coup, d'après le parquet de Lille, le préjudice très important est toujours en cours d'évaluation. Mais en attendant, 270 000 euros ont été saisis sur son compte en banque et l'homme a été placé sous strict contrôle judiciaire.
Salomé Legrand.
Il est midi 16.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant, l'ouverture des frontières. Oui, mais jusqu'où ? A tout de suite.
Il est midi 18, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
Et cette question maintenant, Pierre, si on décide de partir à l'étranger cet été, jusqu'où peut-on aller ?
C'est une bonne question, Elisabeth. Et c'est à Bruxelles, en tout cas en visioconférence, que les ministres européens de l'Intérieur vont tenter de se coordonner. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Isabelle Horry, va-t-on enfin avoir quelques certitudes ?
C'est vrai que c'est vraiment compliqué pour les Européens, cette histoire des frontières. Officiellement, tout le monde veut se coordonner. Dans les faits, chaque pays fait ses propres arbitrages. Alors, il y a deux sujets sur la table aujourd'hui. Un, la réouverture des frontières intérieures dans l'espace Schengen. Et deux, la réouverture vis-à-vis du reste du monde. Sur les contrôles entre Européens, d'abord, beaucoup de pays, dont la France, visent la date du 15 juin pour les supprimer. Mais l'Autriche et la Suisse ne veulent pas rouvrir aux Italiens tout de suite. L'Espagne n'est pas prête. La Commission européenne aimerait donc fixer un nouvel objectif. Elle veut qu'au 30 juin, il n'y ait plus aucune restriction nulle part. On va voir si les ministres acceptent l'idée, ça permettrait aux vacanciers de finaliser leurs réservations. Ensuite, il faut aussi décider quoi faire vis-à-vis de l'extérieur de l'Europe. Les voyages sont interdits jusqu'au 15 juin et après. Est-ce que Schengen rouvre pour certaines destinations? Est-ce qu'il faut faire une liste des pays sûrs, avec le risque de se fâcher avec certains, les États-Unis ou la Chine par exemple? C'est un autre sujet épineux sur lequel les ministres doivent aussi avancer lors de leur réunion.
Merci de ces dernières précisions, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles.
En attendant, on peut toujours voyager en France et certains voudraient pouvoir prendre l'avion même sur des petites distances.
Ouais, on l'a vu pendant toute cette période de Covid, les liaisons Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse, etc. ont fortement diminué. Ben Smith, le patron d'Air France, a confirmé que ça allait continuer dans le sens de la diminution. Mais pour Augustin de Romanet, le patron des aéroports de Paris, ce n'est pas supprimer ces petites liaisons qu'il faut, mais taxer.
Je pense que dans une économie de marché, la régulation se fait plutôt par les prix que par l'interdiction administrative. Et si on considère que des transports de courte distance sont abusivement émetteurs de CO2, eh bien on les taxe éventuellement, on fait augmenter le prix. Si on augmente le prix, ça diminue la propension à consommer. Et avec ces taxes, on peut faire de la recherche pour les biofuels et la réduction des émissions de CO2. Il y a deux choses qui sont claires. Le transport aérien ne pourra pas continuer sa croissance s'il ne réduit pas ses émissions de CO2. La deuxième chose, c'est qu'un monde sans transport aérien n'est pas un monde que nous souhaitons, y compris pour des distances qui sinon seraient réservées
alors
aux personnes qui pourraient louer des avions d'affaires. Mais est-ce que c'est le monde que nous voulons ?
Augustin de Romanet, le PDG des ADP, avec Sonia Mabrouk. Et puis la France dément que Juan Guaido, le chef de l'opposition vénézuélienne, est réfugié dans son ambassade de France, donc à Caracas. C'est pourtant ce qu'affirme mais le chef de la diplomatie du Venezuela.
Il est midi 21.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. C'est de vous qu'on parle, vos droits vis-à-vis de votre employeur, notamment s'il entend vous faire du chantage parce que la crise économique impacte son entreprise. A tout de suite.
Il est midi 24, la suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
Chômage partiel, télétravail, beaucoup d'entre vous se sont retrouvés dans cette situation pendant le confinement. Combien de temps ça va durer ?
Alors, ça ne devrait pas se tarder à se préciser du côté du gouvernement, même si on n'a pas encore toutes les réponses pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis des caisses de l'État, ça ne peut pas durer indéfiniment. Et voilà qu'un autre phénomène se produit et les témoignages sont de plus en plus nombreux. Alors que la crise économique est très dure pour les entreprises, certains employeurs en profitent pour rogner sur les droits des salariés, Simon Rubin.
Oui, les nombreux avocats que j'ai contactés le disent. Depuis le début du confinement, ils ne cessent de recevoir alors beaucoup de questions, de messages inquiets, voire d'appels à l'aide de la part de salariés. Certains employeurs profitent de la crise pour contourner le droit du travail. Emmanuel Gaïa, avocat parisien, donne l'exemple d'un cas assez récurrent. Un employeur qui baisse les salaires de ses employés en dehors de tout cadre légal.
Des salariés d'une société informatique se sont vus proposer des réductions de salaire de façon informelle et sans que les instances représentatives du personnel ne soient consultées. Et donc il y a bien eu des pressions qui ont été faites, on les a appelés, on leur a envoyé des mails pour qu'ils signent un avenant qui prévoyait pendant une période déterminée une réduction de leur salaire.
Autres exemples, ce salarié poussé à démissionner par son patron au motif qu'il faut soulager l'entreprise en dehors de tout cadre légal, ou encore ces nombreux cas de retard de paye, ces salariés contraints d'accepter un changement de poste sous la menace d'un licenciement. Des pratiques qui ont cours pour la majeure partie dans les petites, voire très petites entreprises, là où les syndicats ne sont pas présents.
Merci Simon Rubin. Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En studio à Europe 1, vous êtes le vice-président de la NDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. Commençons par ce que vient de nous présenter Simon Rubin. Qu'est-ce que je fais, moi, quand mon employeur me dit c'est X% du salaire en moins, ou les RTT, ou je ne sais quoi, ou sinon c'est la porte. Qu'est-ce que je lui réponds ?
Il est dans l'illégalité s'il fait ça. Donc ça, indépendamment de la pression, il y a des règles en France. On ne peut pas non plus changer les salaires des gens sans leur accord. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, leur accord, on peut l'obtenir par le phénomène de pression, ce qui est la plus mauvaise des méthodes, à la fois à court terme pour l'individu lui-même et à moyen terme pour l'entreprise. De toute façon, ce qui est d'ailleurs curieux de ce type de méthode, puisqu'il y a des dispositifs légaux qui permettent de le faire en accord avec les partenaires sociaux. Ça s'appelle l'accord de performance collective. C'est prévu par les ordonnances de 2017.
Donc je me tourne vers mon syndicaliste maison, j'allais dire.
Oui, je ne sais pas syndicaliste maison, mais de toute façon, ce genre de choses qui sont des décisions lourdes.
Délégués du personnel.
Des décisions graves. Elles ne peuvent pas se prendre en dehors du dispositif légal de dialogue social. Ça n'a aucun sens.
Mais vous savez très bien que dans les petites entreprises, il y a comme une sorte de famille. On est en famille, on se connaît depuis longtemps. Souvent, on a les enfants qui vont à la même école, etc. Donc, c'est très, très difficile pour l'employé de dire « bah non, tu ne peux pas me dire ça », parce que souvent, on se tutoie aussi.
Oui, non, mais d'abord, ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on ne respecte pas la loi. Ça, c'est un premier point. C'est vrai que dans les TPE,
les gens
en revanche.
N'osent pas.
Non, c'est vrai que dans les TPE, en revanche, je peux comprendre qu'il y a des TPE qui sont confrontés à un vrai sujet de leur propre survie. Donc la question de la masse salariale joue. En revanche, l'imposer par ce système-là, d'abord, au-delà du fait que c'est illégal, ce n'est pas la bonne méthode. Même si on n'a pas de représentant du personnel, et dans le cas que vous citez, sur des TPE, on peut discuter, s'entendre sur une période donnée dans laquelle la rémunération va baisser. Mais le plus important, c'est dans quelles conditions on sort de cette situation exceptionnelle qui pourrait être créée.
Mais refuser de baisser son salaire, est-ce que ça ne risque pas de se transformer en licenciement économique quelques semaines, quelques mois après ?
C'est effectivement un risque qui est non négligeable. C'est pour ça que nous, on pense que la meilleure méthode, que vous ayez des organisations syndicales ou que vous n'en ayez pas, c'est trouver un terrain d'entente, si c'est nécessaire à la survie de l'entreprise, encore faut-il le prouver quand même.
En ce moment, la crise que nous traversons permet de le prouver.
Voilà, va créer ces situations-là. Donc, créer les conditions éventuellement de baisser la masse salariale en accord avec les salariés, mais prévoir dès le début comment ça se passe à la fin. Au moment, alors on ne peut pas, je pense, on ne peut pas se limiter à remettre le salaire initial, parce que le salarié a fait un effort pour pouvoir sauver son entreprise, il va nécessairement être bénéficiaire, tant mieux, mais je pense qu'il faut organiser les choses. Le gouvernement a les moyens de le faire. Je vais vous donner un exemple très simple que j'ai proposé hier, d'ailleurs. C'était
à qui
tout simplement à un représentant syndical.
Ah oui, oui. Non, je pensais au gouvernement.
Voilà, qui était de dire, mais assez proche du gouvernement, qui était de dire, prévoyons dès maintenant que lorsqu'on sort de cette situation de baisse de salaire consentie, on augmente, par exemple, les conditions d'intéressement ou de participation, de manière à ce que la rentabilité retrouvée de l'entreprise profite, certes, au chef d'entreprise, éventuellement à l'actionnaire, mais aussi aux salariés. Et là, c'est un deal gagnant-gagnant. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir, parce qu'il ne faut pas se tromper. La crise sera terrible sur ce plan-là, et quelquefois, c'est indispensable.
Alors, sur le chômage partiel, il a été poursuivi tout au long de ce mois de juin, même si le taux n'est pas le même. Et on s'interroge, bien sûr, sur ce qui va se passer, sur ce qui risque de se passer au 1er juillet.
Alors, de toute façon, le gouvernement a annoncé une logique de dégressivité. De dégressivité de la prise en charge. Parce que je rappelle que la dégressivité mise en place par le gouvernement ne retire pas le montant que touchent les salariés. Il ne faut pas perdre de vue qu'un salarié en chômage partiel, il ne touche pas 100% de son salaire, il touche 84% de son salaire. Donc ça, c'est le gouvernement va annoncer une dégressivité parce que tout simplement, budgétairement, ce n'est pas supportable. Et puis, qu'est-ce que serait un pays où 12 millions de salariés seraient rémunérés par l'État durablement ? La sortie de cette crise, elle sera entrepreneuriale, elle
surtout
sera pas
le secteur
étatique.
Privé, parce qu'on pourrait comprendre dans le secteur public.
Mais... En revanche, j'ai vu apparaître une proposition du gouvernement reprise par le Sénat, votée par l'Assemblée, qui consisterait à utiliser le chômage partiel pour compenser justement la part de rémunération perdue par les collaborateurs qui verraient leur rémunération baisser dans le cas qu'on évoquait avant. Ça, c'est plutôt assez malin, parce que ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Ça permet de pousser les entreprises à passer des accords négociés et de compenser le salaire pour pas que les gens perdent de pouvoir d'achat. Ça, c'est un cumul intelligent de mesures. Ça a été voté par l'Assemblée. On verra si le gouvernement reprendra cette disposition. C'est une forme de chômage partiel qui vient compenser la baisse de rémunération sans pour autant faire que ce soit l'État qui pèse 12 millions de Français en plus des 5 millions de fonctionnaires qu'il paye.
Alors, venons maintenant à notre façon de travailler qui a considérablement changé. Hein. On l'a tous vu pendant cette période du confinement. Je veux parler du télétravail. Il y a le MEDEF qui se réunit aujourd'hui sur cette question. Est-ce que vous pensez que c'est rentré dans les mœurs définitivement avec le confinement ? Et est-ce que ça va devenir quelque chose de généralisé ?
Alors, effectivement, il y a eu une espèce... Ça s'est enflammé un petit peu et tout le monde voulait mettre en place du télétravail. On observe depuis quelques semaines que tout le monde commence à y réfléchir différemment. Parce que vous savez, la généralisation du télétravail, sur un plan théorique, c'est assez joli. Sur un plan pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que mettre en place le télétravail dans une entreprise, ça change profondément la nature de la relation entre l'employeur et l'employé.
De quelle façon ça change?
Ça change la manière de travailler. Je vais vous donner un exemple très concret. Beaucoup, aujourd'hui, le télétravail en moyenne, c'est 1,8 jours par semaine pour les entreprises qui l'ont adopté. On entend beaucoup qu'on passerait à 3 jours, voire 4 jours. Si vous passez plus de temps en télétravail que dans votre entreprise, nécessairement, quand vous allez y aller, votre relation à l'entreprise va être différente. Parce que vous n'allez pas y aller pour travailler dans votre bureau comme vous le faites chez vous. Dans ce cas-là, vous restez chez vous. Vous allez y aller pour favoriser la collaboration. Vous allez y aller pour vous former ensemble, pour travailler ensemble.
Il n'y aura peut-être plus de bureaux. Il y aura peut-être des espaces avec peut-être des salles de réunion. Et chacun arrive avec son ordinateur portable.
C'est pour ça que le télétravail ne peut pas s'envisager tout seul. Il doit s'envisager avec, d'un côté, repenser les bureaux, ce qu'on appelle le flex office, et de l'autre, repenser le management. Parce que manager des gens à distance, ce n'est pas comme manager des gens qui sont là. Savez qu'en France, on a une culture plutôt présentéiste du management.
Oui, c'est-à-dire on pointe, on a besoin de pointer pour se dire qu'on est au travail.
Oui, on est obligé. Et puis même, vous avez des gens qui sont à l'aise quand ils ont leur équipe autour. Ils ont l'impression d'être manager dans ces conditions-là.
Vous auriez eu le même discours pendant le confinement sur le télétravail? Ou c'est parce que maintenant, on a l'impression qu'on fait un petit peu machine arrière? C'est bien ce qu'on a vécu, mais...
Alors, peut-être que certains font machine arrière, pas la NDRH et pas moi en l'occurrence, puisque j'ai toujours expliqué que le télétravail généralisé qu'on a connu pendant cette crise n'est pas comparable au télétravail habituel. En revanche, la généralisation est sans doute un nouveau mode de travail qui va s'installer durablement, sous réserve qu'on y mette un certain nombre de conditions. C'est un projet d'entreprise. Et puis, je vous donner un exemple très concret. Si une entreprise est 4 jours par semaine en télétravail, comment vous faites pour intégrer des gens? Parce que quand vous entrez dans une entreprise, vous croisez des gens, vous faites votre petit réseau, on vous explique la culture non dite de l'entreprise. Si les gens ne sont pas là, on fait comment? Donc le télétravail, ce sera un nouveau mode de travail poussé par les salariés. C'est l'intérêt des pouvoirs publics, ça désengorge les transports. C'est aussi l'intérêt des entreprises, ça réduit leur surface immobilière. Mais ça doit se construire dans le cadre d'un projet global qui intègre la culture, le management, les espaces. Ça ne peut pas se faire sur un coup comme ça.
Mais ça peut se faire, c'est-à-dire que c'est dégressif selon les années. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, en 2090, on passera à 100% du télétravail et qu'aujourd'hui, on peut juste se dire que c'est une fois de manière sporadique.
Non, je pense que ça doit s'installer dans le temps. C'est un projet qui peut durer 1 à 2 ans. D'abord, vous avez un premier phénomène. Est-ce que les gens sont en télétravail volontaire ou non volontaire? Autrement dit, est-ce que vous décidez de définir certaines fonctions comme étant des fonctions qui ont nécessairement une part de télétravail? Ça peut être une cause d'attractivité d'un employeur, ça, par exemple. Après, le volontariat peut s'installer généralement, mais dans ce cas-là, vous devez vous assurer, 1, de la cybersécurité, 2, de l'équipement des gens, 3, de la manière dont vous allez les faire travailler ensemble, parce que ce n'est pas parce que vous êtes à distance que vous ne travaillez pas avec les autres, et puis 4, l'impact sur la réalité de l'entreprise. Parce qu'attention au délitement du lien d'entreprise, si les gens ne viennent pas trop souvent. C'est pour ça qu'on pense que la frontière, c'est 2 ou 3 jours. 2 jours, vous êtes majoritairement au bureau et minoritairement chez vous. 3 jours, vous inversez. Et là, ça changera profondément le rapport au travail. Pourquoi pas? Mais ça doit être conçu comme un ensemble de projets d'entreprise.
Ça me rappelle toujours ce questionnement que j'ai. Mais qui est la personne qui a inventé que le week-end, c'était 2 jours?
Et écoutez, je pense qu'il faut se rattacher à l'histoire.
Merci. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, merci d'avoir été en studio dans Europe Midi. L'économie encore avec le constructeur automobile britannique Bentley qui annonce la suppression de 1000 emplois sur 4000 au Royaume-Uni. Bentley qui est dans le consortium du groupe Volkswagen.
Il est midi 35. Europe 1. Dans un instant, pas de fête des mères assouplie dans les EHPAD et la reprise en trombe des cérémonies de mariage. A tout de suite. Il est midi 37, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag. La fête des mères, c'est dimanche et pourtant, il n'y aura pas de mesures assouplies dans les EHPAD.
Contrairement à ce que souhaitait le gouvernement, mais voilà, le protocole de visite reste très strict et donc sur le terrain, on l'a constaté avec les équipes d'Europe 1, le résultat, c'est que de très nombreux établissements ont renoncé à organiser la fête des mères. Bonjour Jérôme Gage.
Oui, bonjour.
Vous êtes conseiller départemental de l'Essonne. Vous avez été missionné par Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur l'isolement des personnes âgées. Ça va être un crève-cœur dimanche.
C'est évidemment un crève-cœur. C'est un crève-cœur depuis le 11 mars, depuis la décision d'interdire les visites des familles. Il y a eu une première vague d'assouplissement qui a été mise en place à partir du 20 avril. Moi, j'avais travaillé à la préparation de ce protocole. Mais il faut bien se rendre compte, c'est un dilemme terrible. Il y a environ 14 000 résidents d'EHPAD en France qui sont décédés depuis le début de la crise. 10 000 dans les établissements eux-mêmes et puis environ 4 000 après transfert à l'hôpital. On a vu des situations dans des EHPAD où quand le virus rentrait, il était absolument redoutable avec l'ensemble des résidents, avec des établissements qui parfois ont été sinon décimés, mais très lourdement touchés. Et donc, c'est le dilemme terrible parce que dans le même temps, tous les professionnels, les familles et les résidents eux-mêmes, bien évidemment, sont conscients que la rupture de ces liens personnels, familiaux, entraîne ce que les gériatres, et c'est un vilain terme, appellent le syndrome de glissement, la perte de morale, des syndromes dépressifs, de la perte de l'appétit, de la dénutrition. Et donc, la conciliation entre sécurité et liberté, c'est le crève-cœur que vous évitez. Et c'est vrai que les situations sont délicates partout.
Vous parlez de crève-cœur, vous parlez de dilemme. Franchement, qu'est-ce qui vous en empêche? C'est quoi? Il faut mettre en place un protocole sanitaire, encore un. Peut-être, pourquoi pas, organiser des rencontres à l'extérieur avec les personnes âgées. Mais de là à priver toutes ces personnes dont vous venez de dire, hein, elles sont dénutries, elles ont vécu un confinement atroce. Là, vous recommencez avec l'interdiction de l'assouplissement des règles dans les EHPAD? C'est pas possible.
Alors,
quand même.
Vous savez, moi, j'ai formulé des recommandations et elles ont été mises en œuvre pour partie. La première d'entre elles était de dire qu'il faut permettre aux familles de revenir dans les établissements avec un protocole qui était jugé drastique, mais qui a quand même été mis en place dans la plupart des EHPAD de France. Concrètement, c'est on autorise les visites. Elles sont, si possible, elles ont lieu à l'extérieur parce qu'on hésite d'être dans des pièces fermées. Mais il y a même normalement, on avait dit évitons les contacts physiques, mais je sais qu'il y a beaucoup de directeurs d'établissements qui ont pris la décision, parce que ce sont eux qui prennent leurs responsabilités au regard de la situation. Ils ont, vous citez plusieurs directeurs d'EHPAD, franchement, les personnels des EHPAD, ils ne font pas ça non plus de gaieté de cœur, mais certains ont pris la décision, par exemple, de réautoriser ce qu'on appelle le pot à pot, le fait que les familles, quand elles viennent visiter, puissent toucher leurs proches. Le contact de la main, de cette caresse sur la joue est absolument...
Il y a aussi la mise en place de grandes bâches en plastique, en plexiglas, différentes matières plastiques qui permettent de se voir.
Ce sont des images qui sont parfois un peu dures, mais je pense que c'est mieux que rien. Moi, le seul message dans la prolongation des recommandations que j'ai faites, c'est d'inviter l'ensemble des gestionnaires et des directeurs d'EHPAD à ne pas avoir des mesures d'hyper-protection. Vous savez, on a dit que les EHPAD, ça doit être des lieux de vie. Il faut vraiment l'assumer. Or, la vie, d'une certaine manière, c'est aussi de prendre des risques. C'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce que je viens de vous dire en disant il faut protéger pour éviter. Ouais. Mais il faut admettre aussi qu'on puisse réintroduire du risque parce qu'il n'y a pas de vie sans le risque, que le sel de la vie, c'est aussi le contact avec ses proches. Mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On ne peut pas permettre des visites en continu. D'abord parce que, vous savez, le personnel des EHPAD, il a été considérablement mis à contribution. Il est lui-même épuisé par la période qui a été vécue. Et l'organisation même de ces visites, c'est souvent un des points. Moi, je reçois beaucoup de mails ou beaucoup de courriers de gens qui me disent « J'ai pu aller faire une visite, mais on me dit que la prochaine ne pourra avoir lieu que dans 15 jours. » Et je comprends que c'est extrêmement difficile parce qu'il y avait des familles admirables qui avaient l'habitude de visiter tous les jours leurs proches.
Jérôme Guedj, qu'est-ce que vous dites aux familles? Vous dites « On a eu l'EHPAD en ligne, il nous dit bah non, vous ne pourrez pas venir dimanche. » Et vous leur dites « Bah si, allez-y quand même et puis vous verrez bien. »
Alors, ça renvoie à une chose, c'est que la décision doit être collégiale. Dans chaque établissement, il y a ce qu'on appelle un conseil de la vie sociale, il y a des représentants des familles. Il faut qu'il y ait ce dialogue avec les médecins de l'EHPAD, les infirmiers, la direction de l'établissement, pour trouver le mode d'emploi. Ne pas être dans l'hystérie sécuritaire qui consiste à dire, par principe, il n'y a aucune visite. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est disproportionné. Et en sens inverse, ne pas dire, ben, on recommence comme avant, il n'y a aucun risque, parce que le virus... On estime aujourd'hui, le gouvernement l'a indiqué, qu'il y a 45% des EHPAD qui, encore aujourd'hui, déclarent des cas de Covid à l'intérieur de l'établissement. Aujourd'hui, ils peuvent être isolés. Hier, le conseil scientifique a fait une recommandation très intéressante. Il a proposé que tous les personnels des EHPAD soient désormais testés toutes les semaines, ce qui est déjà aussi une garantie pour éviter que le virus ne revienne dans les établissements. Peut-être que demain, quand on aura une plus grande généralisation des tests, pour les familles, on pourra peut-être aussi prendre ce critère pour faciliter le retour des familles. Mais je le dis, voilà, l'objectif, c'est que les familles puissent revenir, accompagner leurs proches, naturellement dans les situations de fin de vie. Fort heureusement, ça a pu se faire dans beaucoup d'établissements. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que ce virus, il a été particulièrement...
Bien sûr. Je pense que là, pour le coup, tout le monde en est conscient. Merci beaucoup. Merci Jérôme Guedj de vos explications. Merci d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Midi.
On l'a vu pendant la période de confinement, beaucoup d'entre vous se sont résignés à annuler la fête.
Oui, la fête du mariage est souvent à reporter ses célébrations à l'année prochaine. Beaucoup de tristesse, mais aussi des frais. Hein. De l'autre côté, les entreprises type traiteur ont dû payer les pots cassés.
Et d'autres, en revanche, après avoir repoussé parfois plusieurs fois la date, certains sont heureux de pouvoir enfin se dire oui, comme l'a constaté notre correspondant à Toulouse, Benjamin Peter.
Au nom de la loi, je déclare Madame Catherine Jiménez et Monsieur Gérard Vialard unis par le mariage.
Ces mots n'avaient plus résonné depuis 2 mois et demi dans la salle des illustres du Capitole. Un soulagement pour Gérald et Catherine qui devaient se marier le 30 avril.
Enfin,
heureux.
Enfin, heureux. Voilà.
Marie et Cyprien, eux aussi, ont profité de la première date qu'on leur proposait.
Il était prévu le 18 avril. On l'a reprogrammé au 21 mai. Et maintenant, voilà, il est là.
C'était compliqué, mais on a attendu patiemment.
Ce qui était important pour nous, c'était de nous marier à l'église. Il fallait se marier à la mairie avant. Et dès qu'il y a eu des dates pour la mairie, on l'a prise.
Pas de masque obligatoire, mais des cérémonies limitées à 30 personnes, pas plus. Et la salle a été adaptée, comme l'explique Christine Escoulan, l'adjointe en charge des mariages.
Tous les sièges respectent les gestes barrières, c'est-à-dire à 1 mètre des uns des autres. Je lirai les articles sans masque parce que je suis très loin des mariés. Mais par contre, lorsque je m'approcherai des mariés, je mettrai une visière. Et j'espère que pour eux, ça sera toujours le plus beau le jour de leur vie.
En tout, 200 cérémonies ont dû être annulées. Alors pour rattraper le retard, la mairie va proposer plus de créneaux. En fin de semaine, 32 mariages pourront être célébrés par jour, contre 20 habituellement. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Il est midi 45.
Europe 1.
Et dans un instant, direction Chambord, le plus beau château de la Loire. À tout de suite. Il est midi 48, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
C'est le plus grand et le plus beau château de la Loire. Chambord ouvre aujourd'hui, Pierre.
Oui, malgré la météo quelque peu maussade, les touristes sont en rendez-vous. Vous l'avez constaté sur place, Romain Oquet.
Oui, depuis ce matin, une petite centaine de visiteurs défilent dans la cour d'honneur du château. C'est là que j'ai croisé Christelle, qui a fait 1h30 de route pour la réouverture et surtout pour le plaisir d'un tête-à-tête avec la somptueuse façade de Chambord.
On est porté par quelque chose en rentrant dans l'enceinte. C'est un château de la Renaissance et du coup, c'est une renaissance aussi pour le château, pour nous aussi. De savoir que derrière, on va revivre une histoire comme avant.
Alors, comme avant, pas tout à fait. Je me suis promenée dans le château et pendant de longues minutes, aucun visiteur à l'horizon. J'avais presque Chambord pour moi toute seule, jusqu'à ce que je rencontre Michel dans l'une des salles.
Alors ici, je vais tricher, c'est la salle des illustres.
Là, on est tout seul, en effet.
C'est ça, oui. Comme si le château nous appartenait à peu. Et on va éviter la foule des grands jours de visite, oui.
Forcément, dans les grands appartements, facile de respecter les gestes barrières. La nouveauté, c'est le sens de circulation imposé aux visiteurs. Pas de quoi contrarier Françoise.
On s'en rend même pas compte. Qui a un parcours fléché.
C'est peut-être plus la buée sur les lunettes quand on porte un masque. Exactement. C'est compliqué pour voir les tableaux.
C'est plutôt ça qui me dérange, moi, en tout cas. J'ai pas trouvé le truc encore.
Et oui, c'est masque obligatoire dans tout le château. Et même François Ier, le fondateur de Chambord, s'y est mis. À l'entrée, une affiche, le roi de France habillé d'un élégant masque chirurgical.
Reportage de Romain Oquet. Bonjour Jean de Sonville.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Merci d'être en direct. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du domaine national de Chambord. Alors, ce n'est pas le jour du couronnement de François Ier, mais c'est quand même un grand jour pour vous. Hein.
Bah, c'est un jour heureux, un jour de soulagement aussi, parce qu'on avait besoin de reprendre le travail, à la fois toutes les équipes ici. Puis on a besoin d'accueillir nos visiteurs qui nous font vivre. Et donc, on est très heureux de reprendre.
Alors, de reprendre, mais on l'a entendu dans le reportage, il y a un parcours fléché.
Il y a un parcours fléché, il y a une série de mesures très simples, hein, à la fois la gestion des files d'attente, les vitres en plexiglas pour protéger les caisses, le port du masque obligatoire, des bornes de gel hydroalcoolique, un petit peu de fléchage dans le monument. Cela étant, Chambord est très vaste, c'est un lieu qui est très aéré aussi, parce qu'on garde ouvertes les grandes portes du donjon, une bonne partie de la vitre se fait sur les terrasses, dans les cours. Donc c'est un lieu qui est très propice au déconfinement et très facile à organiser pour accueillir les publics.
Ce qui est compliqué, c'est plutôt dans les escaliers, non ?
Bon, les escaliers, oui, en même temps, c'est un clin d'œil historique parce que du coup, on prend une volée qui monte et une volée pour descendre. On retrouve un peu la vocation originelle de cet escalier double révolution qui était fait pour permettre à des invités de ne pas se croiser. Donc les visiteurs ont fait l'expérience eux-mêmes. Et puis on répartit très facilement le public. On a choisi de rouvrir aujourd'hui, vendredi 5 juin, un jour de petite fréquentation pour se roder, se remettre en jambes progressivement.
Et au bout de cette première matinée de visite, en parlant de rodage, quel est le premier bilan, Jean de Sonville ?
Ben pour l'instant, ça se passe bien. Je dirais qu'on n'a presque pas assez de visiteurs pour être sûr que les mesures sont suffisantes, mais on a en fait le mois de juin pour s'adapter. La prochaine étape, c'est le 22 juin avec la phase 3 du déconfinement. Et on espère retrouver non seulement nos visiteurs français et européens, mais plus encore, parce qu'on a besoin de nos visiteurs, encore une fois, pour faire vivre ce patrimoine.
Vous avez besoin de retrouver vos visiteurs aussi parce que l'établissement a perdu plusieurs millions d'euros avec le confinement.
On prévoit de perdre malheureusement la moitié de la recette annuelle, à peu près 9 millions d'euros. Nous vivons à 90% de la recette touristique. Donc nous avons fait un gros plan d'économie. L'objectif, c'est de conserver l'emploi. Il n'y a aucun licenciement.
Il y a combien d'employés à Chambord ?
215 équivalents temps plein, 185 permanents.
Oui, donc c'est quand même considérable. C'est toute une économie hein, qui est sur place. Et tout à l'heure, justement, une des personnes dans le reportage disait « On a évité les grands jours de visite ». C'est quoi les grands jours de visite ?
Les grands jours de visite, ce sont les week-ends. Alors, c'était les week-ends de mai. Et puis après, c'est la haute saison qui démarre, surtout à partir du 14 juillet. En hiver, on peut avoir 200 personnes dans la journée, en été jusqu'à 10 000.
Ah oui, donc c'est considérable. Merci beaucoup, Jean de Sonville. Merci, président directeur général du domaine national de Chambord. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Je signale que Franck Riester, le ministre de la Culture, sera l'invité d'Europe 1 ce soir à 19h20 pour parler de la réouverture de Chambord, mais aussi de Versailles.
Et la grogne qui monte dans le foot amateur, Pierre.
Oui, plusieurs clubs ont entamé des recours en justice, vous le savez, contre la fédération. Après sa décision d'arrêter les divers championnats de niveau inférieur, la 3F, par exemple, tente de calmer le jeu. Son COMEX vient de voter une aide de 30 millions supplémentaires. Chaque club va percevoir 10 euros par licencié. Une bouffée d'oxygène pour certains, une aide nettement insuffisante pour d'autres. Cyril Delamorinerie.
Le président de Ferrand Ardennois attendait cette aide avec impatience. Ce club de 9e division, situé dans l'Aisne, va percevoir 2000 euros de la fédération, somme correspondant aux bénéfices du loto et de la brocante annuelle qui n'ont pu être réalisés. Malgré ce soutien, son président Mourad Chouli reste anxieux.
Nous, cette crise nous a fait mal. On a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir du club de foot. On risque de perdre des adhérents, on risque de perdre des sponsors. Et cette aide de la FFF, clairement, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle.
En revanche, à Reims, le club amateur de Sainte-Anne est furieux. Son président, Antoine Contardeau, juge l'enveloppe allouée totalement insuffisante, d'autant que son club vient d'être privé de monter en 5e division en raison de la méthode de calcul décidée récemment par la fédération.
Pour un club comme le nôtre, ça représente 6 400 euros. Cette somme est ridicule. Le préjudice financier d'un club comme Sainte-Anne est plus de l'ordre d'environ 70 000 euros. On ne peut pas se satisfaire de ça qui représente peanuts par rapport aux décisions qui ont été prises.
Le président de Sainte-Anne prévient qu'il envisage désormais une action en justice contre la fédération.
Cyril de la Morinerie.
Merci Pierre de Villeneuve. Marie-Élisabeth. Eh bien, je vous souhaite un bon congé de fin de semaine, comme on dit chez Laurent Cabrol.
Exactement.
Profitez
c'est
bien.
Très Laurent.
On vous retrouve lundi dans votre grand journal de midi dans Europe Midi. Merci Pierre. Et c'est le moment de la météo avec vous Céline Dacosta. Nuages et averses sont au programme cet après-midi.
Oui, on va rester sur ce front pluvieux qui circule sous le pays depuis plusieurs jours avec généralement de faibles averses cet après-midi, mais elles pourraient quand même être un petit peu plus soutenues entre la Picardie et les frontières du Nord puisqu'elles se décalent au fil des heures vers le Grand Est. Pour la moitié sud, là aussi pas mal de nuages et des averses passagères. Le temps, lui, s'améliore sur les régions méditerranéennes. Le soleil va même s'imposer au fil des heures et on pourrait aussi le voir réapparaître un petit peu sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais alors ça sera pour la toute fin de journée. Les températures, elles sont semblables à celles d'hier.
Un peu plus frais, j'ai l'impression.
C'est
non
un petit peu plus frais, surtout qu'on a un petit vent d'ouest qui souffle pas mal. Donc la moyenne est de 15 à 19 degrés. On a par exemple 15 à Cherbourg, 17 degrés du côté de Brest, 18 à Paris. On a perdu jusqu'à 10 degrés hein, en l'espace de 48 heures. 18 également à Clermont-Ferrand. On a 20 degrés, l'une des maximales hein, du côté de Cognac. Près de la Méditerranée, là où le soleil va briller, c'est un peu plus doux, hein, 21 à 24 degrés.
Ils ont de la chance.
En moyenne.
Eh bien, écoutez, merci Céline Dacosta. Mais je crois qu'il y a aussi le week-end. Un petit
mot
du week-end, évidemment.
Oui. On va rester sur une ambiance assez fraîche, hein, puisque à ces températures qui ont baissé, ce petit vent d'ouest va toujours souffler. Il rafraîchit l'atmosphère. Côté ciel, ce n'est pas mieux qu'aujourd'hui. Nuages, averses. Retour des orages même hein, sur les reliefs, notamment le Massif central et les Alpes. Les Pyrénées, on aura également quelques coups de tonnerre en altitude. Et puis, on a également un léger mieux pour la moitié nord demain après-midi. On peut le noter avec quelques éclaircies qui vont faire leur retour. Ça va rester timide, mais elles seront bien là. Ce sera plus calme aussi dimanche sur un axe Nouvelle-Aquitaine-Grand Est, avec là aussi des éclaircies, mais en général, c'est vrai, le week-end va être quand même assez nuageux et assez pluvieux.
Bon, c'est comme ça, on verra. Mais oui, la semaine prochaine, ce sera mieux. Voilà,
ça fait du bien, on a pratique.
Voilà. Très bien, très bonne raison. Merci Céline Dacosta, à tout à l'heure.
Europe 1.
Restez avec nous, un pitch, une solution, un coup de main. C'est la France qui se bouge et qui se mobilise après cette crise sanitaire inédite. À tout de suite.